Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu consacrée à la draft avec aujourd'hui la première des parenthèses consacrée au Scouting Combine 2023, les ateliers grandeur nature réalisés par les principaux prospects universitaires seniors ou d'une autre classe en l'occurrence, hein, ce qu'on appelle les underclassmen, donc ceux qui se sont annoncés de manière précoce par rapport à leur cursus universitaire. On va développer un petit peu tout ça au cours de cette émission, parce qu'il y avait un peu plus de 300 joueurs, hein, attaque et défense. Aujourd'hui, on s'intéresse notamment à l'aspect défensif de ce combine, hein, c'est eux en l'occurrence qui avaient ouvert le bal, une fois n'est pas coutume, à l'occasion de cet événement prévu du côté d'Indianapolis, qui s'en est le mieux tiré au niveau des joueurs de ligne défensive, des linebackers ou des defensive backs. On va analyser tout ça avec mon camarade Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour Grégory, bonjour à tous.
Un plaisir de te retrouver. Alors, on commence aussi parce que je le disais, ce combine pour une fois nous offrait d'abord les défenseurs pour démarrer les ateliers. C'est aussi incontournable, on va dire, de commencer par les défenseurs parce que tu l'as souvent rappelé, faut s'attendre majoritairement à une classe défensive cette année.
Oui, oui, on peut dire, on en discutait un peu hors antenne de savoir quels étaient les meilleurs, enfin les postes les plus fournis de la draft, etc. La réalité, c'est qu'on peut discuter de quels sont les postes les plus fournis, etc. Il y a une chose dont on a un peu de mal à discuter aujourd'hui, c'est qu'on est un peu obligé de considérer que le talent se trouve majoritairement au niveau de la défense et ça risque de se ressentir au premier et au deuxième tour.
Tout à fait. Alors, on va planter le décor d'emblée avec notamment, alors il y a des différentes positions qu'on aura divisées de certaines manières, avec notamment un joueur, on va dire, qui a marqué des points à l'occasion de ce combine, d'autres qu'on a peut-être perdu hein, sur certaines positions. Ce sera notamment le cas sur la ligne défensive, le poste de linebacker et de safety. On fera des angles plus particuliers concernant les edge rushers et les cornerbacks, avec notamment la question de savoir à quel point cette classe de edge rusher est profonde et surtout savoir quel cornerback, par exemple, ont marqué des points, hein, des cornerbacks qui ont fait le show, notamment sur le 40 yards. Hein, c'est ceux qui ont marqué dans cette optique-là le plus de points. Hein. Je pense que tu me rejoins là-dessus globalement, Victor. Certains ont été un peu plus déçus par les receveurs, manifestement.
Ouais.
Mais voilà, on a déjà vu en effet des classes de receveurs beaucoup plus agiles. On va démarrer avec la ligne offensive, notamment avec le joueur chaud et le joueur qui a peut-être un petit peu déçu à l'issue de ce week-end du côté d'Indianapolis. On démarre aussi au niveau de la ligne défensive parce que l'actu nous rattrapant, on a eu cette situation un peu ubuesque autour de Jalen Carter. Jalen Carter qui a donc été... c'est un mandat d'arrêt, le terme en français. Je ne veux pas travestir un peu les termes anglais, mais en tout cas, voilà, on va dire qu'il a été plus ou moins convoqué par la justice américaine.
Il a même été libéré sous caution. Hein,
donc, voilà, c'est pour ça. Ouais. J'essaie de faire attention aux termes que j'emploie. Je ne suis pas très adepte des termes judiciaires, donc je ne veux pas mal les traduire. Mais oui, est-ce qu'on peut dire qu'il a été interpellé par les forces de l'ordre de
Géorgie? En tout cas, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui. Bon, mandat d'arrêt qui n'a pas eu besoin d'être appliqué puisqu'il s'est présenté de lui-même pour répondre, entre guillemets, des accusations qui sont contre lui. Mais c'est sûr que là, on arrive à un moment où, oui, ça devient un peu compliqué, là, ce qui se passe.
Alors, on rappelle très brièvement les faits qui se sont passés et qui fait écho à un drame qui s'est passé en début d'année du côté de Georgia, au lendemain, d'ailleurs, du titre national acquis par les Bulldogs. Le décès donc, du lineman offensif Devin Willock, qui était backup la saison dernière, mais qui était amené à devenir un titulaire de Georgia la saison prochaine, dans un accident de voiture en compagnie d'une recruteuse, je pense, ou en tout cas d'une membre du staff de Georgia. Et en l'occurrence, donc, les deux personnes sont décédées dans cet accident de voiture. On n'en savait pas encore plus vraiment sur les circonstances. Et du coup, Jalen Carter a été, donc, je le disais, donc, convoqué, interpellé, ou choisissez le terme que vous voulez, parce qu'il y aurait en effet un faisceau d'indices qui indiquerait une espèce de... Alors, ce n'est pas une course-poursuite, mais une espèce de
une course un peu... Une course qui aurait été organisée en plein milieu de la ville.
Voilà, une espèce de Fast véhicules. And Furious version de Georgia Bulldogs qui aurait malheureusement mal tourné et dans laquelle Jalen Carter serait impliqué. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails à
il
ce niveau-là.
Il aurait été dans l'autre véhicule.
Voilà.
Je ne sais pas s'il était conducteur ou passager ou autre, mais en tout cas, apparemment, il aurait été dans l'autre véhicule.
Tout à fait. Donc voilà, on attend encore une fois d'en savoir plus. Ce n'est pas notre rôle de prendre des décisions là-dessus. Tu le disais, le plus important, c'est qu'il a été, enfin le plus important, en tout cas dans l'optique de la draft, hein, parce qu'on va parler de manière cynique. Pour l'instant, c'est ce qu'on couvre. Donc c'est dans cette optique-là qu'on se place. Il a été libéré sous caution et il est donc revenu du côté d'Indianapolis ce week-end. Mais, et ça, ce n'est pas lié à ce qui s'est passé dans le cadre de cette enquête, c'était déjà prévu, uniquement dans le but de rencontrer des équipes, parce qu'il avait déjà annoncé qu'il ne ferait pas les ateliers. A priori, c'est prévu uniquement pour son Pro Day du côté de Georgia. Donc, on rappelle, les Pro Day, c'est des ateliers organisés spécifiquement sur les campus respectifs, ce qui permet également d'avoir, par exemple, voilà, plus d'automatisme avec les gens avec qui on réalise ces ateliers, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, à l'occasion du Combine. Donc voilà, donc on va savoir ce qui va se passer du côté de Jalen Carter. On en parlait un petit peu en off, c'est assez rare ce genre de circonstances. Hein. Je citais notamment Lyle Collins il y a quelques années, mais qui était plus interrogé à l'époque où il sortait d'LSU comme le témoin. Alors, je sais plus si c'était un meurtre, il me semble. Hein, que...
C'était un meurtre, hein, je
oui,
crois.
Oui, c'est ouais. Ça, ouais. Mmh. Il était plus auditionné dans le rôle d'un témoin, mais on avait vu qu'il était passé d'un statut de premier tour premier, deuxième à l'époque, un statut de non-drafté, parce que très clairement, le vrai du faux n'était pas encore démêlé à ce moment-là. Entre-temps, les choses...
Il a été innocenté, hein, voilà. Si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait, voilà. L'affaire a été résolue et finalement, il a eu la carrière qu'il a eue avec voilà, une carrière réussie du côté de Dallas et maintenant du côté de Cincinnati. Alors, Lyle Collins, c'était pas forcément le premier tackle sur les boards à ce moment-là. Là, la question va se poser pour Jalen Carter, parce qu'on parle non seulement du meilleur lineman défensif sur le plateau, mais peut-être aussi du meilleur joueur intrinsèquement parlant de cette QV 2023. Donc, c'est vrai que là, ça va être forcément un dossier suivi de très, très, très près. Encore une fois, j'utilise un angle très cynique, mais ça va être quelque chose de suivi de très, très, très près par les franchises d'ici le 27 avril prochain. On en vient au terrain et aux ateliers, hein, ce qui nous intéressait principalement en l'occurrence, avec notamment les joueurs qui ont marqué le plus de points ou qui se sont peut-être tirés une petite balle dans le pied à l'occasion de ce week-end. Et on va parler, alors je ne veux pas me tromper sur le prénom, hein, parce que là, attention, c'est un gros, gros piège. On va parler notamment d'un joueur de Northwestern qui a marqué beaucoup de points. Alors vous verrez, il y a des joueurs, encore une fois, on est dans une période où les joueurs sont extrêmement hybrides. Donc, on va essayer de caser les joueurs un petit peu où on veut. Il était classé en tant que edge, mais c'est vrai qu'on est globalement d'accord sur le fait que c'est peut-être plus un lineman défensif intérieur, un espèce de defensive end 34 éventuellement à l'échelon supérieur. Mais en tout cas, beaucoup ont été bluffés par la prestation notamment d'Adetomiwa Adebawore de Northwestern. Je l'ai sous les yeux, hein, je ne vais pas faire...
Bravo à toi, bravo à toi, parce que je n'aurais pas été confiant de le dire, tu vois.
Ah ouais, écoute, pour le coup, je n'ai pas dans l'idée que ce soit le plus dur. ADAD, hein, comme diraient ses amis. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que c'était... On parle beaucoup de Peter Skoronski en provenance de Northwestern. Il y a quelques phénomènes athlétiques en provenance de l'université d'Evanston, et Adebawore en fait partie et a peut-être beaucoup surpris. C'est vrai qu'on vante justement son gabarit qui était assez dissuasif, Là, pour le coup, il y a l'agilité qui a l'air d'aller avec.
Ben, il y a un peu tout, en fait. Il y a la vitesse, déjà, pure. C'est quand même toujours important.
4,40 sur 40.
Ouais, il y a l'agilité. Il y a, en effet, le changement de direction. Très fluide. Très, très fluide. Avant-arrière, droite-gauche. Enfin, vraiment, il a impressionné. C'est un joueur qui a l'air absolument d'une polyvalence folle. On le disait, on peut l'imaginer dans certains systèmes en edge, on peut imaginer dans certains systèmes en defensive tackle 3 techniques. On pourrait même l'imaginer en linebacker extérieur sur certains schémas de jeu. Il a l'air d'avoir une énergie infinie, infinie vraiment. C'est un joueur assez brut techniquement et je pense que c'est aussi pour ça peut-être qu'on n'en a pas parlé pendant, on va dire, les premières semaines. Mais un tel potentiel athlétique, tu ne peux pas l'ignorer parce que ce qu'il a réalisé, ce n'est pas non plus historique. Il y en a qui ont fait des performances historiques, on va y venir. Mais ça reste, ça a été tout simplement la meilleure note athlétique à égalité, je crois, avec Yaya Diaby. Mais oui, c'est un joueur où tout le monde va revenir sur ses vidéos et va se demander, mais qu'est-ce qu'on a loupé? Parce que là, peut-être que dans le top 50, il va devenir incontournable dans les mocks à venir.
Tout à fait. On n'aura jamais autant regardé des vidéos de Northwestern en 2022, alors que pourtant, c'était moche.
C'est clair. Mais là, tu as vu en direct le meilleur match de Northwestern.
Ouais, là, c'est celui qui suit la saison de college football qui parle. Hein. Northwestern, 11-1, je crois, cette saison. Bon, ça, c'est pas le plus important, mais voilà. Vous verrez en tout cas que dans les tranchées, il y a quelques beaux spécimens. Et c'est vrai que pour rejoindre un peu ce que tu disais, pour revenir vraiment à proprement parler sur le joueur, certes, il y a des qualités de finition peut-être à optimiser de la part d'Adebawore. C'est un joueur qui en effet est souvent dans le secteur, mais qui a souvent peut-être du mal à être propre, on dira, dans l'exécution de bout en bout. Après, voilà, en effet, cette agilité, ces changements de direction, ça montre, comme tu le disais, que c'est un joueur qui peut parfaitement être intéressant en termes de poursuite. Enfin, voilà, vraiment le rôle du lineman défensif ou du edge, on va dire moderne, à qui on va demander énormément de choses, Adebawore peut avoir ce panel assez large, et c'est ça qui est assez intéressant, et c'est ça qui potentiellement peut en faire un premier tour, parce que très clairement, on en parlait déjà comme un potentiel jour 2, là très clairement, il a marqué des gros points dans cette optique-là. On va peut-être parler du joueur qu'on a marqué un petit peu moins. Alors, il y a deux joueurs qui ont le même nom, mais qui n'ont pas eu la même trajectoire à l'occasion de ce combine. Hein. On ne va pas vendre la mèche tout de suite pour l'autre joueur, mais vous saurez de qui je parle. On va parler de Byron Young, lineman défensif, defensive tackle d'Alabama, pour qui ça a été beaucoup plus compliqué. Alors là aussi, on parlait potentiellement d'un jour 2 hein, pour Byron Young, hein, peut-être plus aux alentours du 3e, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, par là, 3e, 4e, enfin, même éventuellement 2e, si bon combine.
Oui, voilà. Après, ça reste voilà, du lineman défensif d'Alabama, mais voilà, c'était en tout cas un joueur qui pouvait être aux alentours du 3e. Qu'est-ce qui t'a globalement déçu dans sa prestation du côté d'Indy?
Bah, à peu près tout. C'est-à-dire que... Non, mais là où c'est dommage, bon, il n'a pas... Je ne crois pas qu'il ait disputé le 40 yards, ou en tout cas je ne m'en rappelle pas.
Non.
C'est un joueur physique. Ça, on est assez d'accord. Il a de la puissance du haut, du bas du corps, ce qui fait que quand il est double team ou autre, il peut contenir, etc. Malgré tout, là, il y avait un manque de production, il y avait un manque d'équilibre et de contrôle du corps. Et on a vu malheureusement que ce manque d'équilibre et de contrôle du corps, ben, il s'est vu sur tous les ateliers. En fait. Le truc, c'est qu'il n'est pas athlétique. Il a une détente verticale qui est très mauvaise. Il n'a pas été particulièrement impressionnant sur le 3 cônes. Il a paru lent, beaucoup de mal à se retourner, beaucoup de mal à changer de direction. Ça ressemble quand même de plus en plus à une ancre qui ouais, peut ça. Être utile.
Qu'on appelle joliment un boucheur de trous, quoi.
Ouais, c'est, tu peux l'avoir dans l'effectif. C'est sympa, mais pas plus, quoi. Tu as vraiment l'impression qu'il ne sera jamais un rusher. Il n'a pas les capacités athlétiques pour un vrai rusher. C'est vraiment le joueur, tu le mets là parce qu'il prend de la place. Mais ça me paraît à peu près tout pour lui.
Ouais, je regardais, et puis même sur le bench, hein, alors c'est donc sur le développé couché, c'est pas encore une fois ce qui détermine, mais mine de rien, sur des joueurs de ce calibre-là, en tout cas de ce gabarit-là, c'est vrai que les équipes vont avoir tendance à essayer de se rassurer un petit peu là-dessus. Il fait, je crois, 24, ce qui est relativement. Alors, c'est dans la première moitié, on va dire, de ceux qu'on passait. Et encore, je dis ça, il est dans la moyenne à peu près. Et tous ceux qui n'ont pas fait, il est à peu près dans la moyenne. Mais ouais, enfin, il n'y a pas de choses, encore une fois, où tu sors, où tu te dis waouh, il a fait une grosse prestation. Donc, je te rejoins. C'est vrai que c'est un petit peu. Il y a un petit bémol par rapport à ça. Juste très rapidement, et après, on enchaînera sur les Edge. Mais ton avis sur Brian Breezy, d'ailleurs, parce que justement, sur le bench press, d'ailleurs, on n'a pas vu énormément de choses très rassurantes. Ses ateliers ont été un peu en demi-teinte. La vitesse, il me semble, ça a été assez. Alors, j'allais dire, ça a été assez correct. Il fait 4,86, hein, mais bon, pour un joueur de son gabarit, c'est peut-être pas si déshonorant que ça. C'est quoi ton avis globalement sur Brian Breezy? Est-ce qu'on reste aux alentours peut-être d'une moitié d'un milieu de premier tour?
Je vois plus en fin de premier tour ou début de second. Brian Breezy, c'est difficile à comment dirais-je, à évaluer parce que il a eu un potentiel énorme. Il y a 2 ans, grosse blessure. Il revient. L'année dernière, problème personnel, hein, puisqu'il a perdu sa sœur juste au moment de début de la saison. Ça doit quand même, on reste tous des êtres humains, ça doit pas être évident de te focus sur le football quand il arrive des trucs comme ça. Et derrière, on a un peu l'impression qu'il court après une forme physique qu'il n'a plus vraiment eue depuis 2020. Et forcément, ça impacte tout son jeu. Donc, il y a un potentiel, on le sait. C'est un joueur qui peut faire des belles choses. Mais ça commence à dater un peu ses belles performances. Et j'ai peur que, oui, on reste à un moment où bah, là, ça reste compliqué là, pour l'instant.
Tout à fait. Bon, on attendra de voir en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est pas forcément un joueur qui a. C'est pas celui qui a le plus perdu ce week-end, mais c'est clairement pas celui qui a marqué les esprits.
Non.
Sachant qu'en plus, le meilleur lineman défensif du plateau, Jalen Carter, n'était pas forcément présent pour les ateliers ou le 40 yards. Donc ce sera à suivre pour la suite. On passe à la deuxième catégorie, les edge rushers. Et là, il y a des choses à dire parce que forcément, c'est une classe qui était assez suivie. Alors, pour ceux qui attendaient de la vitesse, notamment sur le 40 yards, hein, il a fallu prendre son mal en patience, on va dire, notamment attendre les pro day. Pas de Tyree Wilson, pas de Keion White, qui en a d'autres, pas de BJ O'Jewleri, pas de Miles Murphy. Enfin voilà, il n'y avait pas de Félix Anoudike également. Donc niveau edge, globalement, il a fallu attendre 2 ateliers. Je n'ai pas cité Will McDonald également, qui n'a pas fait de 40 yards. Donc voilà, globalement. On attendait de voir un petit peu ce qu'ont donné d'autres joueurs sur les ateliers. Pour ceux qui ont couru, en tout cas, ce n'était pas forcément une mauvaise chose et ça nous a permis d'avoir la confirmation qu'on avait sans doute, alors c'était débattable et ça restera à confirmer là encore en fonction de ce qu'on considère être un edge. On peut en tout cas avoir une classe, la classe la plus profonde de cette classe si on s'arrête de cette draft, si on s'arrête notamment sur les prestations des uns et des autres à l'issue de ce week-end.
Oui, en fait, le truc, c'est que non seulement tu as de la profondeur, tu as aussi des têtes d'affiche, et en plus, tu pars d'une position premium, ce qui n'enlève rien, mais si jamais on avait 10 bons linebackers, c'est formidable, mais on connaît la valeur des linebackers aujourd'hui. Edge, c'est la position la plus importante de NFL aujourd'hui. Donc, avoir un tel pool de talents fait que d'un côté, on se dit, bah, on peut en avoir beaucoup au premier tour. Et quand bien même certaines équipes attendraient en se disant, il y a quand même pas mal de bons joueurs, bah, si on prend l'ensemble des 2 premiers tours, il y en aura au moins une dizaine. Et c'est assez impressionnant.
Oui, c'est ça, parce que l'idée, ce n'est pas de faire du name dropping, mais on en parlait en off, il y a au moins 5 noms qui peuvent sortir au premier tour. Et en effet, si on prend le deuxième jour, bah, je parlais de l'homonyme Byron Young, bah, celui de Tennessee, en tout cas, il a marqué beaucoup, beaucoup de points sur la position de Edge. Si on prend les ateliers et les qualités athlétiques, les différents ateliers athlétiques auxquels il a participé. Nolan Smith, alors c'est une apparition sur le 40 yards, hein, ça peut en frustrer quelques-uns. Enfin, quoi que je dis ça, il a fait quelques autres ateliers. C'est plus les ateliers de. Comment on appelle ça? On va dire
Il
qu'il
n'a
a
pas
fait les.
fait tout ce qui est saut,
Voilà.
etc.
Ouais,
Il a fait
il
des ateliers techniques,
a. Ouais.
classiques, on va dire.
Il a fait ce qu'on appelle un combine à la carte. Mais en tout cas, ce sur quoi il a participé et ce sur quoi il était attendu, à savoir les qualités athlétiques hors normes, il l'a confirmé. Hein. Après, c'est une ancienne recrue 5 étoiles en sortie de lycée. Donc, de toute façon, on sait que c'est un athlète pur et dur. Mais en tout cas, il a continué de marquer des gros, gros points. Et puis, j'ai même été assez. Je trouve qu'il y a des belles surprises quand même globalement sur cette position. On a vu qu'un Isaiah Allen, par exemple, de Florida A&M n'est pas forcément déconnant. Je suis très, très intrigué par un Lonnie Felt, par exemple, de Kansas, dont on parle très, très peu, mais qui, je pense, peut-être alors, troisième, voire quatrième, selon l'amour des uns et des autres, ça peut être une éventuelle bonne affaire. Donc, très, très franchement, ça joue avec la classe de cornerback dont on parlera tout à l'heure. Là-dessus, on était d'accord globalement. Où on peut avoir au moins 5 noms facilement cités au premier tour. Mais c'est vrai que là, ça a confirmé que non content d'avoir une draft globalement défensive en 2023, on devrait avoir une draft extrêmement fournie en termes de edge rusher. Donc, il n'y aura peut-être pas forcément besoin de se précipiter dès le premier tour. En tout cas, si on a une politique à moyen terme ou ce genre de choses, il y a moyen d'avoir des bonnes choses derrière. On en parlait là aussi, hein, pour faire écho à Brian Breezy. Isaiah Foskey, je continue comme toi d'y croire, notamment en fin de premier tour. Il y a quand même la question, on va dire, de l'agilité qui continue de faire un petit peu tiquer les observateurs. On ne l'avait pas vu forcément hyper bluffant à l'occasion du Senior Bowl. Je n'ai pas dans l'idée qu'au Combine, ça ait changé énormément de choses non plus. Donc voilà, attention, parce que ça peut être le type de joueur. Ce sera une très bonne aubaine pour les joueurs qui récupéreront pour les équipes qui récupéreront des joueurs en début de deuxième tour, par exemple. Je pense que ce sera le type de profil sur lequel on va se précipiter s'il n'est pas sélectionné dès le jeudi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est des choses qui jouent en sa défaveur. Donc on attendra le Pro Day de Notre-Dame pour savoir si éventuellement il a un regain de forme assez significatif. On passe à la troisième catégorie avec notamment les linebackers. Et alors forcément, hein, c'est lié aussi à ce qu'on considère être un linebacker, un edge, etc. etc. En tout cas, là, on est loin de la classe de edge. Pour le coup, Victor, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation sur cette classe de linebacker. Donc, dès qu'on a une bonne surprise, on est très content de l'avoir. Et en l'occurrence, cette bonne surprise cette année au niveau de la classe de linebacker au sein du Combine, c'est sans doute Owen Papo, linebacker donc d'Auburn. Alors, on met souvent en avant le fait que, on va dire, pour un linebacker un peu moderne, il n'a peut-être pas la taille idéale, mais en tout cas, il a des qualités athlétiques qui ont sauté aux yeux à l'occasion de ce week-end du côté d'Indianapolis.
Oui. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire que on n'a pas tellement appris beaucoup plus sur lui, mais il a répondu présent.
C'est meilleur temps que... du 40 yards avec Nolan Smith, pour le coup, sur la position en tout cas, avec 4,39.
Voilà, le problème, c'est la taille et la qualité de plaquage avec lui. C'est que ce n'est pas forcément un joueur ultra fiable. Mais par contre, autant le plaquage, ça peut se travailler, autant les capacités athlétiques pures, bah, y a quand même une base qui doit être là. Et sa base, elle est énorme. C'est-à-dire qu'il est athlétique, pas seulement rapide. Il est athlétique dans tous les ateliers. Il est parmi les meilleurs performeurs. Et clairement, aujourd'hui, bah, pour le coup, autant il y a des positions où on a vu des joueurs un peu étonnants performer ou l'inverse. Là, on voit que 3 des 4 meilleurs performeurs au niveau des linebackers, c'est Jack Campbell, Trenton Simpson, Owen Papo. On n'a pas de grosses surprises des joueurs qu'on attendait là. Alors, des qualités athlétiques différentes l'un et l'autre, hein, mais c'est vrai que Papo, bah, c'est ce joueur ultra rapide dont tu te dis, bah, si demain il doit poursuivre un joueur du slot ou alors il doit aller à la poursuite d'un running back ou quoi, notamment dans un déplacement, on va dire, est-ouest, bah, c'est sûr que c'est un joueur, il peut traverser le terrain en un clignement d'œil. Donc ça, c'est précieux. C'est précieux en NFL. Et ça va vraiment… Alors lui, tu vois, moi, j'étais entre deuxième et troisième jour. J'étais peut-être un peu violent avec lui, mais c'était là où j'avais. Là, après une performance comme ça, tu te dis « OK, il devrait être au deuxième jour ».
Bah, oui, c'est ça. Bah, c'est un peu ce que j'allais dire. C'est vrai que moi, je le mettais peut-être aux alentours du quatrième. Encore une fois, partant aussi du principe que le haut du poste de linebacker ne fait pas forcément rêver. Donc forcément, ça va aussi être au détriment des positions derrière parce que bah, forcément, si c'est un peu en retrait… Bah, ce ne sera pas forcément très très, très très haut dans la hiérarchie. Mais pour moi, oui, c'est un joueur qui, du coup, avec une prestation comme ça, peut passer d'un quatrième à un troisième, ne serait-ce qu'à un troisième, par exemple, de par ce que tu évoquais, voilà, cette capacité, notamment en termes de poursuite, qui peut être extrêmement intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on caricature beaucoup le poste de linebacker. Sur le côté, il faut savoir couvrir aussi, parce que avec les nouvelles formations défensives, en tout cas, Les packages ont tendance à énormément changer. Bah, les linebackers, il n'y a plus forcément besoin d'avoir 3 ou 4 non plus en fonction des séquences. Donc, faut être un linebacker sur 3 tentatives. Mais sur le peu de snap, enfin, en tout cas sur le snap peut-être un peu plus réduit qu'on peut être amené à lui donner, ça ne veut pas dire qu'Owen Papo n'aura pas à terme son mot à dire. Donc là-dessus, il a marqué des points précieux dans l'optique de la draft. La déception, alors malheureusement, ça devient un peu récurrent. J'ai un peu l'impression de m'acharner sur ce pauvre homme. DeMarvion Overshown, linebacker de Texas. Alors, c'est toujours un peu le même problème avec lui. C'est que tu dis, c'est le combine. Donc, même si on a tendance à être un peu sceptique sur certains points, il va faire le show. Et même là, avec des dimensions comme les siennes, on ressort du combine en se disant, bah, est-ce qu'il a vraiment marqué, on va dire, de son empreinte, les ateliers de par son gabarit, son envergure, etc., etc. Rien n'est moins sûr.
Oui, ouais.
Ton avis sur Overshown, parce que moi j'avoue que il m'a beaucoup frustré et je pense qu'il va en frustrer quelques-uns en NFL. C'est un joueur qui est assez symbolique, qui symbolise pas mal l'inconstance. Et ouais, enfin c'est un peu l'impression que j'ai encore sur ce combine là quoi. En fonction des ateliers, en fonction de ce qu'on lui demande de faire, ça va pas être la même production ou en tout cas la même envie à chaque fois, j'ai l'impression.
Oui, en fait, moi, ce qui me gêne un petit peu avec lui, c'est que si on regarde vraiment les ateliers athlétiques purs, bon, bah, il est athlétique, hein, ça, ce n'est pas une découverte. Globalement, il a fait des bons chiffres. Mais quand tu regardes, en effet, les ateliers de travail, ils sont un peu moins notés de manière binaire, mais tu as quand même l'impression parfois d'un joueur, un peu qui sait, il a un joli corps, mais il ne sait pas trop utiliser. Et puis, il comprend un peu plus tard que les autres les instructions. Il y a un peu le côté poulet sans tête, quoi. Et ça me fait un peu peur parce que sans vouloir. On parle de QI football, hein, je ne suis pas en train de parler de son QI dans la vie, hein, ça, j'en sais rien.
C'est surtout qu'on parle d'Alan Backer, quoi, une position qui a toujours été, on va dire, essentielle d'un point de vue, on va dire, tour de contrôle. Et ça ne fait pas exception à la règle aujourd'hui quand on voit tout ce qu'on demande aux backers d'aujourd'hui. Quoi.
C'est ça. Et lui, ben, en plus, il a le côté Isaiah Simon, c'est-à-dire est-ce que c'est un linebacker, un safety, un joueur de boîte, un machin. Ben, le problème, c'est que pour ces joueurs-là, extrêmement polyvalents, à qui tu vas demander beaucoup de choses, ça va leur demander d'assimiler très rapidement les choses. Et là, en effet, tu as l'impression d'un joueur dont tu te dis, je ne suis pas sûr qu'il va réussir très rapidement à assimiler les choses. Il a l'air d'avoir quand même beaucoup de mal à appliquer les consignes. Et il me fait un peu peur.
Ouais. C'est toujours la comparaison facile, parce que du coup, je pense souvent des modèles par rapport à des joueurs qui sortent des mêmes universités. Hein, je suis désolé pour le manque d'originalité des fois des exemples. Il y a un côté Malik Jefferson il y a quelques saisons avec DeMarvion Overshown, c'est-à-dire que tu vois le phénomène physique que c'est sur le poste, mais comme tu dis, malheureusement, tu as l'impression que il y a des choses innées, mais que l'acquisition, ce ne sera jamais vraiment ça, en fait. Enfin, après, voilà, encore une fois, on ne veut pas paraître trop trop sévère. Encore une fois, le but du jeu, ce n'est pas de taper gratuitement sur les prospects et on leur souhaite le meilleur. Mais ouais, il y a cette impression que ouais, il y aura ce déficit un peu assez souvent. Et c'est vrai qu'à Texas, même quand c'était un leader, un joueur expérimenté, etc., c'était pas forcément toujours celui qui tirait l'équipe vers le haut en défense. Et c'est là
ça pouvait l'être sur un match, mais ça pouvait être boulé au match d'après, quoi.
C'est ça.
C'est toujours un peu le problème avec lui, c'est que il a ce côté où sur un match, ça peut être très bien, mais sur le long terme, tu sors de là et tu dis non, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis tu le dis, il a un corps qui ne sait pas forcément utiliser. Enfin, je veux pas encore une fois rentrer dans le jeu du combat, mais ouais, enfin, tu vois, je reprends le développé couché, quoi. DeMarvion Overshown avec le gabarit qu'il a, il est avant-dernier sur ceux qui font développé couché. Tu te dis, bon, c'est peut-être pas exclusivement son jeu, mais voilà, c'est quand même un joueur qui est censé aller pour mettre de l'impact aussi. Donc c'est un peu voilà, je pense qu'avoir du gabarit, c'est pas forcément une mauvaise chose pour l'aider en ce sens. Et c'est surtout qu'on voit qu'à côté de ça, bah, il y a d'autres linebackers qui ont peut-être continué à marquer des points. un Dejan Henley, un Dorian Williams, pour ne citer que. Enfin voilà, il y a de plus en plus de joueurs, je trouve, qui passent devant lui. Et on passe d'un top 10 de la position à un joueur qui commence à être borderline 4e, 5e tour au mieux, quoi.
Donc, oui, mais Dorian Williams, c'est le bon. Je trouve que c'est un peu le bon exemple du joueur un peu sous les radars. Et puis finalement, plus on voit les vidéos, plus on se dit, ah là là, il a progressé, il y a un talent, il y a un truc, il y a un machin. Alors que quand tu regardes notre cher ami Overshawn, bah, tu regardes les vidéos d'il y a 2 ans et les vidéos de maintenant, il n'a pas tellement progressé, quoi. C'est un peu toujours le même. Et c'est ça qui fait un peu peur.
Tout à fait. Donc on attendra de voir. Je ne l'ai pas dit, mais juste pour finir la parenthèse sur Jack Campbell. Alors, j'en profite d'ailleurs, hein, vous l'avez peut-être entendu, mais voilà, un gros soutien, un gros big up à Victor, parce que voilà, voit un petit peu éraillé par la maladie.
Ah, mais je suis là malgré tout.
Voilà, lui aussi fait les ateliers parce qu'il faut les faire. On a eu un receveur qui a fait un combat avec un seul œil.
C'est ça, bah, moi je fais un podcast avec une seule corde vocale.
Voilà, je parlais de Jaden Reed, dans l'occurrence, le receveur de Michigan State. Très bien, voilà. Donc, niveau linebacker, ça aussi. Là, ça ne rentre pas dans les joueurs qui ont forcément marqué énormément de points et qui n'ont clairement pas perdu, mais on était d'accord là-dessus. Jack Campbell d'Iowa, qui a quand même confirmé son statut de deuxième vrai linebacker du plateau. Alors, on peut tiquer un peu sur Trenton Simpson, ça dépend de l'évaluation qu'on en fait. Mais,
deuxième vrai, ah non, premier.
Ah voilà, bon, écoute.
Sur les pour moi, des premier linebacker du plateau.
Je demande à voir. Pour l'instant, dans mon esprit, Simpson est encore un peu devant. Mais c'est vrai que je commence à me poser des questions sur Simpson, qui n'a pas fait un mauvais combine, d'ailleurs. Hein,
qui n'a pas fait du tout un mauvais combine. Mais voilà. Après, encore une fois, le problème des linebackers, c'est qu'on ne compare pas vraiment des joueurs équivalents. Dans le sens où Jack Campbell, c'est vraiment ton middle linebacker classique, etc. Trenton Simpson, c'est un linebacker un peu plus extérieur, un peu plus moderne.
Oui, c'est plus ça, Will, ouais.
Bon, en soi, bon, ils sont chacun numéro un dans leur rôle respectif. Mais c'est vrai que, ouais, Campbell, moi, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ça fait 2 ans, hein, puisque je l'avais vendu l'année dernière et finalement, il était revenu en université.
Oui, c'est ce que je vois. Ouais.
Mais c'est un joueur, ouais, j'y crois fort.
C'est pour ça, je ne résiste jamais à l'occasion de te tendre la perche pour que tu t'enfonces un peu plus de clous sur Jack Campbell. Au cas où, on n'aurait pas compris. Mais encore une fois, très beau joueur. Donc, si vous n'avez pas vu, éventuellement.
C'est mon Liane Eikenberg de cette année. Tu ça ne m'avait pas beaucoup réussi.
Oui.
Ah bah,
c'est ça, oui. Bon. Monsieur Alnécro.
Il faut prendre des risques dans la vie. J'assume.
Très bien. Bon, on enchaîne. En tout cas, on va passer sur l'arrière de la défense avec notamment la question des cornerbacks. Alors, il y a pas mal de noms. Encore une fois, on parlait de la position de edge où il y a quelques joueurs qui sont quand même assez établis au premier tour. Au poste de corner, c'est pareil. Alors, malheureusement, on n'avait pas la possibilité de voir Devon Weatherspoon qui, je crois, est blessé. C'est aux ischio, à moins que je comprenne avec un autre joueur.
Ben, en tout cas, il avait une blessure musculaire. Après, je ne sais plus exactement, mais pas quelque chose de grave.
Quelque chose qui l'empêchait de participer sur le moment, mais qui a priori devrait quand même lui permettre notamment de participer au Pro Day d'Illinois dans quelques semaines, puisqu'on parle quand même d'une petite bataille, toute proportion gardée à distance avec notamment Christian Gonzalez pour le statut de cornerback numéro 1. Il y a un joueur, en tout cas, qui commence à s'installer de plus en plus dans la hiérarchie. Alors, on ne le découvre pas, hein, mais en tout cas, on en a parlé encore un petit peu plus ce week-end. C'était le cornerback de Maryland, Deontay Banks, qui était jusque-là notamment souvent vanté pour ses qualités athlétiques, mais qui était peut-être plus annoncé aux alentours du deuxième. Grosse prestation, un gros 40 yards notamment, des ateliers extrêmement solides. Ce qui nous amène à nous poser la question, du coup, est-ce qu'on doit s'attendre à un Deontay Banks plutôt aux alentours du premier avec une prestation de ce type ?
Ben oui, écoute, moi, j'avais mentionné comme étant mon chouchou dans le podcast que j'avais fait avec Kevin, mais j'avais mis un bémol en disant que, voilà, en termes de vitesse et de fluidité de mouvement, ça semblait un peu limité et du coup, j'avais l'impression que ça desservirait. Bah, force est de constater qu'il a paru totalement transfiguré. Alors, est-ce qu'il a travaillé sur son physique ? Est-ce que finalement, à Maryland, on lui demandait de jouer comme ça ? Et du coup, ça paraissait un peu caricatural. Et finalement, c'était le système qui était comme ça et pas ses prestations athlétiques. Mais la réalité est que, bah, à partir du moment où le mec tu t'attends à ce qu'il tape un 4,50 au niveau du 40 yards et il vient avec un 4,35. Bon, la vitesse ne fait pas tout, mais quand même, ça veut quand même dire que quand il va falloir poursuivre en homme à homme ton vis-à-vis, c'est quand même beaucoup plus simple quand tu as ce type de vitesse. Donc là, je pense que Deontay Banks, avec une performance comme ça, déjà la hype qui commençait à monter avant, etc., je pense qu'il sortira pas après le premier tour. Hein. Je pense que là, il y a quelqu'un qui va aller chercher entre 20 et 32.
C'est surtout que c'est intéressant pour lui parce qu'encore une fois, on est un petit peu obligé de le faire. Si on compare par exemple à d'autres corners sur la position, alors je trouve que Cam Smith a été assez solide, le corner de South Carolina. On peut peut-être rester un peu plus sur notre fin concernant Kelly Ringo et Joey Porter Jr.
Ouais, alors moi surtout Joey Porter en fait.
Tu t'es rendu compte qu'il n'était pas régulier.
Non, c'est pas tellement ça, c'est que pour moi, des trois vraiment importants, Gonzalez, Witherspoon et lui, c'est censé être le plus athlétique des trois. C'est censé être sa force. Pour moi, il devait exploser le combine et on sort de là en disant, bon, je ne sais pas s'il est cornerback numéro un, mais en tout cas, il est athlète numéro un. Et le fait est que Gonzalez l'a explosé en termes de performance pure. Pardon. C'est-à-dire que Gonzalez a été le meilleur athlète du combine entre les trois, hein, je parle, ouais, mais sans aucun doute en fait. Donc, Joey Porter Jr. Là, si je regarde un peu, tu vois son score entre guillemets, il se retrouve derrière des Darius Rush, des Julius Brent, des Riley Moss. Bon, tu t'attends quand même à ce qu'ils mettent une pilule à ces gars-là, quoi. Si je me permets de parler un peu crûment. Donc, j'ai été très déçu. Il n'a pas particulièrement, il ne s'est pas loupé, il n'a pas été nul, mais je m'attendais à ce qu'il soit dominant, et ça n'a pas été le cas.
Oui, très clairement, et il y a cette image qui est ressortie, hein, notamment de Joey Porter Senior sur le deuxième 40, qui était un peu sceptique sur la prestation de son petit. Mais bon, encore une fois, voilà, on ne va pas juste résumer au 40, mais c'est vrai que globalement, Il fait un 4,46 qui est son meilleur temps malgré tout. Hein. C'est vrai que c'est un peu la tendance un peu fâcheuse de ces dernières années au combine. C'est-à-dire qu'on a des prototypes tellement dingues et des temps qui deviennent de plus en plus affolants qu'on se dit bon bah tout est relatif. Enfin, en tout cas, on se dit que 4,46, c'est pas terrible, alors que c'est un super temps le concernant. Mais c'est vrai que globalement, il a été assez complet, mais il manquait peut-être cette prestation un peu waouh, justement, qu'on a peut-être retrouvé plus, par exemple, chez Gonzalez pour reprendre le haut du plateau. Pour se dire que finalement, voilà, c'était vraiment un joueur. Et moi, pour le coup, je te dis, enfin, je n'ai jamais voulu être très sévère sur Joey Porter Jr. Déjà, à mon sens, très clairement, tout dépend le rôle qu'on va lui assigner en NFL. Et je pense que c'était aussi ton propos concernant Deontay Banks. Hein. Il ne va peut-être pas correspondre à toutes les défenses. Mais en tout cas, dans ce qu'on va lui demander, il peut largement exceller pour le faire. Voilà, un Joey Porter comme un Deontay Banks, ça peut être des excellents joueurs. Sur le run stop, sur le côté agressif notamment de la couverture, ça peut vraiment être des profils extrêmement intéressants. Et c'est en ça, par exemple, qu'un Deontay Banks, je trouve, a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de points ce week-end par rapport à d'autres profils.
Oui, mais et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, quand tu dis le 40 yards, etc., on est d'accord que ça ne veut pas tout dire.
Bien sûr.
Mais quand on voit que Emmanuel Forbes et Deontay Banks font le même temps, Forbes, il fait 75 kilos.
C'est ça. Banks, il fait 90 kilos. C'est un profil à la Cameron Danzler.
Non, mais donc il y a un moment, courir 4,35 quand tu fais 90 kilos, c'est pas la même chose que courir 4,35 quand on fait 75. Ça veut quand même dire que tu as une force de traction qui est assez énorme. Et ça, c'est important.
On en parlera dans un autre podcast, mais c'est un peu comme faire 4,44 quand tu as un quarterback de 110 kilos ou un peu plus même.
Voilà, par exemple.
On en reparlera dans une autre
vidéo. On en reparlera, mais... Ouais. Il se peut qu'il y ait un quarterback qui a su courir, ouais.
Tout à fait. On termine du coup cette partie défensive avec notamment les safeties et on va commencer du coup par... peut-être. Alors, on va inverser les rôles cette fois-ci. On va peut-être commencer par celui qui a peut-être le plus déçu et là, c'était assez unanime. Celui en tout cas qui s'est clairement pas démarqué, c'est Brandon Joseph. Alors, vous l'avez peut-être entendu, puisqu'il y a eu un podcast Safety il y a quelques jours qu'on a enregistré avec Nitinia Simong pour dresser un petit peu le haut du panier. Hein. On continuait d'avoir des espoirs concernant Brandon Joseph. Je pense qu'il y en a beaucoup qu'on avait également à l'orée de ce Combine 2023. Bon, bah, le ballon s'est un peu dégonflé quand même. Hein. Là, on se posait la question en off, mais ouais, on commence à être plus proche du jour 3 que du jour 2. Hein.
C'est catastrophique. C'est une descente aux enfers qui ne s'arrête pas. C'est un joueur, faut bien vous rendre compte que quand il sort sa prestation en 2020, en plus, je pense qu'il est true freshman. Il n'est même pas redshirt freshman. Ou, je
Tiens,
pense qu'il est true freshman, mais enfin, il sort une performance, on se dit, mais c'est l'avenir de la position. Ça va être un truc énorme et tout. Depuis 2 ans, il s'est perdu. Il s'est perdu. Et là, c'est vrai qu'il a fait des tests athlétiques qui sont vraiment, pour le coup, catastrophiques. C'est vraiment, ça peut pas exister. En fait, il y a le déficit de vitesse, mais il n'y a même pas de capacité verticale, il n'y a même pas de capacité horizontale. Enfin, c'est vraiment un
Oh,
joueur là
les
dans.
ateliers ont vraiment été très quelconques. Enfin, quand je parle vraiment des ateliers sur le terrain qu'on a pu voir, il était vraiment dans le milieu du panier, quoi. Pour un joueur qui est censé vraiment éclabousser, on va dire, son
Ah,
talent
c'était
par
pire
sa
que quelconque, ouais.
fluidité, ses changements. Enfin, c'est vrai que. Parce qu'on parle, c'est un joueur, c'est un des safeties, je trouve, on a le plus de mal encore à l'heure actuelle à déterminer une position claire. Même si, bon, pour beaucoup, il sera plus free safety, plus deep safety, on va dire moderne. Mais ouais, même là-dessus, c'est sûr qu'avec ce déficit de vitesse et cette fluidité qui n'est pas non plus flagrante, c'est pas le genre de joueur à qui tu vas donner le plus de responsabilités d'emblée, quoi.
Bah pour te dire, en détente verticale, y a un site qui calcule les scores athlétiques et en gros, chaque atelier est noté sur 10. En termes de détente verticale, Brandon Joseph, il a eu 1,48 sur 10. Pour un safety, c'est très préoccupant parce que c'est quand même important de savoir sauter haut. Et alors là, pareil, dans le fameux, comment on dit en français, le saut de grenouille, ou je ne sais pas comment traduire, mais
Oui, je pense qu'on a à peu près l'image. Ouais.
il a 4,97 sur 10.
Le
Enfin,
saut à pieds
c'est.
joints, tu peux dire.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Disons ça comme ça. Mais c'est vraiment. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit cata comme ça. On a vu qu'il n'était pas bon et pas dans son assiette depuis un moment. Mais arriver à ce niveau-là, c'est catastrophique.
Tout à fait. Bon, on espère pour lui que ça ira mieux d'ici là, mais ouais, c'est sûr que ce nouveau challenge qui s'était lancé en allant du côté de Notre-Dame, on est quand même un petit peu sceptique, ce que tu le disais, sur ce qu'on voit notamment ces 2 dernières saisons et sur ce qu'on voit tout récemment au sortir de ce week-end du côté de l'Indiana. On va parler d'un joueur qui a marqué des points, en l'occurrence, c'est Jatavius Martin, safety d'Illinois. Alors, enfin, je disais qu'on avait quelques doutes concernant la position de Brandon Joseph à l'échelon supérieur. A priori, ce ne sera pas le cas de Martin, hein, qui a une belle étiquette de nickel, a priori, sur le dos à l'orée de cette draft. En tout cas, on a vu que c'est un safety assez complet, aussi agile que physique.
Ah bah écoute, il fait bon être joueur d'Illinois dans ce combine parce que les deux frères Brown
Plus que
ont été.
Notre-Dame. Ça aussi,
Ah
on en
non, mais
parlait, mais wow,
les deux
les
frères
prospects
Brown
de
ont été
Notre-Dame,
très
c'était
bons.
compliqué. Ouais.
Les deux frères Brown ont été très bons chacun. Donc Sidney le safety et Chase le running back, c'est d'ailleurs des frères jumeaux, hein, si je ne dis pas de
Oui,
bêtises.
tout à fait.
Mais revenons donc sur notre ami Jartavius Martin. Bah, c'est un joueur, c'est vraiment une explosion sur un an. Enfin, moi, en tout cas, je dois avouer que je n'avais pas remarqué avant. Clairement, un joueur polyvalent, un joueur physique, un très bon tackleur et tout. On avait des questions sur sa vitesse, sur son explosivité, etc. Bah, comme tu dis, il a répondu aux questions, quoi. C'est-à-dire qu'athlétiquement, il est très bon. Il est très bon. Il fait partie du haut du panier. Et là encore, c'était encore plus marquant dans les ateliers, on va dire techniques, que dans les ateliers d'évaluation pure. C'est-à-dire que oui, il fait 4,46, très bien, super. Mais ce n'est pas que ça, quoi. C'est vraiment des changements de direction qui étaient clairs, une réactivité qui était vraiment bonne. Et il y a quand même un côté, il y a une marge de progression qui est nette, en fait. tu vois qu'il n'a pas atteint son plafond et tu te dis, ouais, ça peut quand même devenir un sacré bon joueur.
Tout à fait. Bah, surtout que c'est ce que tu disais, c'est que c'est un joueur qui a été titularisé sur le tard du côté d'Illinois, donc qui a quand même une certaine fraîcheur malgré tout, malgré son statut de senior. Hein, parce aujourd'hui, on sait qu'en college football, de par l'année Covid, tout le monde est senior. Mais en tout cas, voilà, si on prend cette idée-là, par exemple, il y a beaucoup de prospects cette année qui vont sortir à 23, 24 ans. On va dire que la marge de progression n'est pas dingue. Alors que lui, alors, les 23 ans, il les aura en avril, mais on a clairement pas tout vu encore de son potentiel et de ce qu'on en a vu en tout cas du côté d'Indianapolis, ça peut en faire saliver 2-3. Alors je sais pas jusqu'où ça peut le faire monter parce que je le mets peut-être encore dans le cadre des bonnes affaires, mais bonne fin de troisième tour quand même, ça peut. Un choix compensatoire, comme on aimait dire avec Nitti.
Ah bah oui, surtout qu'on sait à quel point un choix compensatoire, il y en a un paquet au troisième tour.
C'est ça.
Non, au troisième tour, très bien. Mais les deux safety de Illinois au troisième tour.
Tout à fait. Oui, oui, là, de toute façon, voilà, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que tu disais, ouais, c'est vrai qu'il y a des profils très complets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des joueurs. C'est sûr que Sidney Brown, on en parlait un petit peu, il y a ce petit déficit en termes de plaquage. Peut-être à l'échelon supérieur.
Gros déficit, oui.
Voilà, on voit peut-être moins, enfin, en tout cas, on a peut-être moins l'occasion de le voir pour Jatarvis Martin, mais voilà, ça reste des profils très, très complets voilà, qui peuvent malgré tout être assez présents sur le run support et sur la couverture. Donc ça va être vraiment deux joueurs assez suivis du côté des Fighting Illinois. Je crois qu'on a fait le tour globalement sur cette QV défensive, mon cher Victor. Je sais pas si tu voulais rajouter un dernier petit truc avant qu'on se laisse et qu'on se retrouve dans quelques heures à peine, dans quelques jours.
C'est ça, dans quelques minutes, dans quelques jours. On ne sait plus. Voilà. Physiquement, nous allons nous retrouver dans quelques minutes après. Ça sera sûrement d'ici 24 heures pour nos auditeurs.
Voilà.
Non, mais vraiment, encore une fois, grosse QV défensive et surtout. Sur les postes de edge, sur les postes de linebacker, ne vous tapez pas la tête contre le mur si jamais votre équipe ne sélectionne pas un edge ou un linebacker, un edge ou un cornerback, pardon, sur le premier tour. Il y a du talent au deuxième, au troisième, au quatrième. Il y a de quoi faire. Vraiment, c'est assez beau. Et on suivra évidemment le domino entre guillemets de Jalen Carter. On l'a dit au début, mais qui risque de conditionner beaucoup de choses.
Alors, une dernière question un peu plus légère, si j'ose dire, mais je serais curieux d'avoir ton avis, ce sera le cas aussi pour l'attaque. Est-ce qu'il y a un atelier qui t'a, je parle des ateliers, on va dire, d'évaluation, qui t'a le plus intéressé dans ce que tu as vu, quelques positions que ce soit d'ailleurs?
Ben écoute, j'ai trouvé que pour une fois, la détente verticale nous a appris pas mal de choses. Parce que mine de rien, sur les défensifs back et même, mine de rien, sur les hommes de ligne, hein, tu sais, pour déranger un peu la vision du quarterback ou autre, c'est toujours intéressant. Et j'ai trouvé cette année qu'on a eu des vrais mecs qui ont surperformé ou des mecs qui se sont plantés. Donc moi qui suis d'habitude plutôt fan, on va dire, des ateliers un peu plus techniques et un peu moins fan des ateliers vraiment pur physique, mmh. J'ai trouvé que celui-là, mine de rien, il
donc les deux confondus, plutôt la détente.
Ouais. Plutôt la détente verticale. Ça m'a appris pas mal de choses.
Ouais. Moi, j'ai bien aimé les cerceaux. Je pense que c'est mon préféré.
Ah bah oui. Non mais ça, c'est fun. On est bien d'accord. Hein,
ça passe trop vite.
On est bien d'accord, ça c'est le moment fun.
Tout à fait. Bon, merci encore Victor. Et puis on se retrouve donc pour une prochaine émission consacrée du coup aux principaux prospects offensifs de ce combine. À très vite sur les antennes de Touchdown Actu. Salut à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.